Salut Christophe, salut Fabrice.
Salut Rudy, salut Christophe.
Salut Fab, salut Rudy.
Donc bienvenue pour ce podcast de mars avec Christophe Cario.
À mars, on est bientôt en avril, hein, sauf si vous le mettez en ligne demain.
Ce sera demain.
Soyons super physique au top comme d'habitude, quoi. Voilà.
Ok, alors j'ai regroupé toutes les questions dans quatre thématiques. Donc la première thématique, ça va être tout ce qui concerne la musculation classique ou donc le cardio training system.
Oui.
La partie suivante, c'est plus au niveau du travail postural et de un corps sans douleur.
Mm-hmm.
La troisième thématique va être plus orientée préparation physique, course à pied, cyclisme. Mm-hmm. Et puis après, en quatrième partie, il y en a qui te posent des questions sur ton actualité, les nouveaux livres qui vont sortir ou des choses comme ça.
D'accord.
Donc voilà.
On commence par l'actu, ça sera le plus vite traité.
D'accord. Alors, donc il y a trois questions. Donc il y a Pascal qui voudrait savoir qu'est-ce qu'il y aura dans le livre CTS que tu prépares.
Oui. Qu'est-ce qu'il y aura dans le livre CTS ? C'est assez simple. Ça sera une synthèse de 20 ans de préparation physique, donc me concernant et puis par rapport aux gens que j'ai entraînés. Il y aura une partie santé qui s'adressera principalement à des gens qui veulent améliorer leurs conditions physiques, améliorer éventuellement leur plastique, perdre du poids, gagner de la masse musculaire, limiter le risque de blessure. Et puis il y aura une partie performance qui sera plus orientée vers des gens qui pratiquent un sport particulier, n'importe quel type d'activité sportive, et qui pourront suivre mes conseils pour pouvoir améliorer une fois de plus leur performance tout en diminuant le risque de blessure. C'est à peu près ça la logique de ce livre. Un gros livre qui fera plus de 400 pages d'ores et déjà.
Bon. Eh bien donc Pascal va être content parce que je pensais que tu allais lui répondre « C'est secret, le monde de l'édition est impitoyable ».
Non. De toutes les manières, tu sais, moi je sais qu'il y a des concurrents, il y a des gens qui produisent aussi des livres de très bonne qualité ailleurs. Il n'y a pas de concurrence. Le CTS, c'est vraiment un système particulier et puis je m'aperçois qu'il y a peu de gens qui font la même chose que moi, donc. Et de toutes les manières, pour faire la même chose que moi, il faudrait savoir ce que j'ai dans la tête. Et pour l'instant, c'est pas le cas de beaucoup de gens, donc j'ai pas de problème à livrer mes premières impressions sur ce livre. Voilà.
Bon. Alors après, il y a Adès Jacques, donc lui voudrait savoir si tu prévois de vendre le DVD Air Trainer et la Core Bar de façon séparée, en fait.
Pour l'instant, non. C'est aussi simple que ça. Le principe, c'est d'avoir sorti le Air Trainer à un prix qui est, à mon sens, vraiment pas cher par rapport au prix du marché à l'heure actuelle. La plus-value, c'est le DVD, c'est les techniques qu'il y a dedans. Donc pour l'instant, je ne compte pas le vendre seul. Peut-être que ça viendra d'ici quelques mois ou l'année prochaine, mais à l'heure actuelle, je privilégie la vente du coffret global pour le Air Trainer et le Core Bar. Voilà.
Ok. Et donc la troisième question, donc de Théboda, donc lui voudrait savoir si tu prévois de faire un DVD savoir s'étirer, parce que c'est vrai que juste avec le livre, c'est pas forcément évident de connaître les mouvements, et éventuellement si le DVD Total King Training va couvrir une partie stretching et de fait qu'il n'y aurait pas besoin du DVD savoir s'étirer.
Alors effectivement, le Total King Training, livre et DVD, contiendra pas mal d'exos pour améliorer la mobilité, la souplesse, donc spécifique au coup de pied, toujours de façon équilibrée. Donc finalement, des gens qui éventuellement s'intéressent au travail d'assouplissement pourront toujours trouver une information de qualité à l'intérieur. Pour le moment, ma première priorité, c'est le livre sur le CTS. Donc je mets en sommeil beaucoup d'autres projets pour me concentrer uniquement sur celui-ci. Donc pour l'instant, pas de projet DVD savoir s'étirer. C'est une bonne idée, Théboda, donc je ferme pas la porte, mais bon, déjà qu'on m'accuse de sortir un DVD tous les mois, voilà, on va pas faire plaisir à mes détracteurs, on va rentrer dans les rangs et sortir un livre tous les ans ou tous les deux ans pour ne pas froisser en fait les concurrents.
Non mais en dehors de la blague, c'est vrai que le DVD pourrait être pertinent parce que les étirements qui sont dans le livre, pour ceux qui ne sont pas allés à ton stage, ils ne sont pas forcément faciles à reproduire juste avec les photos, d'autant que des fois même on a l'impression de bien le faire et en plus on fait mal, tu vois, quand il n'y a pas un regard extérieur. Donc le DVD, ça pourrait aider, ouais.
Effectivement, le DVD serait un plus, mais comme tu l'as souligné dans la deuxième partie, Fabrice, de ta réponse, finalement, rien ne remplacera aussi l'œil extérieur, que ça soit avec un coach qui a compris la manière dont je travaille ou qui est déjà venu à mes stages, c'est le cas de Rudy, ou éventuellement, tout simplement, venir à mes stages. Les stages, c'est pas non plus, c'est pas une perte de temps, c'est souvent pour beaucoup de gens un moyen finalement de se rendre compte qu'ils pensaient avoir compris un certain nombre de choses, qu'ils pensaient effectuer correctement un certain nombre de choses, et qu'en fait, bien souvent, ils étaient un petit peu à côté du truc, quoi.
Alors d'ailleurs oui, justement, donc ça c'était les trois questions sur ton actualité, et comme toi ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu sur les forums, ouais. Déjà pour rester sur le stage, est-ce que t'es complet sur les stages qui vont avoir lieu cet été par exemple, ou est-ce qu'il y a encore des places?
Alors il reste pas mal de places sur le stage de juillet, on est déjà 10 inscrits, sur le stage d'août on arrive proche de la clôture, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde, on est pas loin d'une vingtaine déjà, donc pour garder un aspect qualitatif, je pense que je garderai 3-4 places maximum de plus. Donc ceux qui sont intéressés, manifestez-vous. D'autant que après le 15 avril, j'augmente le tarif des deux stages de 80€. Voilà, pour tout simplement remercier les gens qui prennent le temps de s'inscrire à l'avance, contrairement à ceux qui s'inscrivent à la dernière seconde. Voilà.
Ok. Et tu peux rappeler que s'ils sont ouverts multiniveau, toutes les sessions?
Alors, la session de juillet est plutôt une session qui est réservée aux gens qui débutent dans le CTS ou qui n'ont pas forcément un gros niveau sportif ou qui ont pas mal de petits pépins musculaires, des douleurs, des choses comme ça. Donc c'est plus un niveau débutant moyen ou des gens qui veulent travailler correctement et partir sur de bonnes bases. Le stage d'août, c'est clairement un stage qui s'adressera pas forcément à des gens d'un niveau athlétique olympique, puisqu'il y a des gens, il y a des coachs de 50, 60 ans qui sont inscrits, en plus des gens qui ont déjà une certaine expérience de ma vision de l'entraînement et qui veulent vraiment aller plus loin en termes de programmation, en termes d'association des différents outils d'entraînement, etc., et qui veulent passer à l'étape supérieure en termes d'exécution des exercices, etc. Donc, le stage d'août, si vous avez jamais fait de stage de votre vie avec moi, ou si vous avez juste feuilleté mes bouquins, c'est pas la peine d'y venir, ce sera trop compliqué au niveau des notions, au niveau de la planification et tout ça. Voilà. Si par contre, bon, ben vous avez lu pas mal de choses, vous avez déjà essayé de pratiquer certaines méthodes de mes livres, à ce moment-là, ben il reste quelques places, vous êtes les bienvenus, et puis je vous garantis que vous progresserez encore un petit peu plus.
Oui, bah donc nous, l'année dernière, avec Rudy, on l'avait fait. Donc Rudy, il avait réussi à faire des muscle-up à la fin du stage. Hein, tu confirmes, Rudy?
Ouais, des muscle-up, et puis il a réussi à faire la planche ou je sais plus quoi à la fin.
Oui,
j'avais réussi.
Front-lover, tu sais.
Voilà, front-lover.
Donc, ce qui montrait bien que même pour Rudy, le stage avait été intéressant. Et puis, ben, moi, la vidéo que je t'avais promis, là, le 160 au squat sans ceinture, ben, écoute, je l'ai fait ce matin.
Non, c'est pas vrai.
Bravo, ça.
Et si.
Oh là là, on applaudit.
Donc, avoir le stage, incapable de squatter sans ceinture parce que j'avais mal au dos et tout. Donc, tu vois, enfin, j'avais lu le livre, mais j'avais du mal à suivre. Donc, le fait d'avoir fait le stage, ça m'a bien montré qu'il fallait que je m'y mette sérieusement. Et puis, tu vois, bah là, voilà, 160 au squat, sans avoir mal au dos et sans ceinture. Donc, tu auras la vidéo comme je t'avais dit.
Bon, ouais, c'est super. Génial. Je la mettrai sur ma page d'accueil de site. Voilà, pour.
Ouais, je sais pas si ça mérite autant que ça, mais. En tout cas, voilà, la promesse a été tenue.
Bon, et surtout content que les exos qu'on a vus et les petites corrections qu'on avait fait ensemble t'aient aidé. Voilà, finalement, c'est ça le but.
Ben oui. En fait, c'est surtout que du coup, je les ai faits. C'est ça le truc. C'est que avoir les livres chez soi, c'est bien, mais passer à l'action, c'est mieux.
Ouais. C'est souvent là où le bas blesse, en fait. Mais bon, ça, c'est un autre débat.
Oui, on a du mal à... Même avec les livres, on a du mal à être régulier. Mais donc là, le fait de t'avoir vu et de bien avoir montré les limites, hein, sur des exos un peu de base de gainage, bon, on s'aperçoit qu'on n'est pas au point. Ouais. Ben après, on s'y met et puis, ben... Voilà comme ça s'est passé. Alors, première partie. Donc, c'est la thématique musculation ou CTS. Donc, à nouveau, Théboda qui pose une question à laquelle on avait déjà répondu, mais je vais la reposer. Donc, il dit qu'il a l'impression que t'as grossi sur les diverses photos. Ouais. Et donc, il voulait savoir si tu faisais uniquement du CTS ou si tu complétais avec de la musculation classique.
Alors, déjà, pour éclairer en fait Théboda, le CTS c'est pas une pratique qui exclut la musculation classique, la fonte, etc. J'ai déjà dit que je faisais grosso modo à peu près 20% de mon entraînement était composé de travail avec des kettlebells ou des exercices classiques en fait de bodybuilding ou d'haltérophilie. Donc je suis absolument pas contre la fonte. Disons que pour moi, la priorité, c'est d'abord de maîtriser un travail corporel au poids de corps. Donc c'est grosso modo l'essentiel en fait de mon entraînement, que ça soit poids de corps avec les exercices que vous voyez dans mes vidéos un peu extrêmes, ou que ça soit des exercices avec le air trainer qui sont beaucoup plus souples au niveau des articulations, ou que ça soit encore des exercices de avec les sangles élastiques, les bandes élastiques. Donc ça, c'est vraiment la base de mon entraînement. D'une part parce que je préfère m'entraîner dehors, d'autre part parce que je voyage pas mal et que c'est des outils que je peux transporter tout le temps avec moi et que qui me permettent de m'entraîner n'importe où. C'est vraiment ça l'essence du CTS. Mais j'ai aussi des kettlebells à la maison de plusieurs tailles, de plusieurs kilos. Je fais de temps en temps des trucs d'haltéro, voilà. C'est pas ma préférence, parce que l'haltéro, par exemple, est une pratique qui demande un aspect technique qui est très important, dans lequel il y a très peu de marge de manœuvre en termes d'erreur, sinon c'est rapidement la sanction en termes de blessure. Donc voilà, je préfère utiliser des choses que je maîtrise mieux, à savoir les exercices poids de corps, élastique, air trainer, etc. Donc ça c'est le premier aspect de la réponse, Théboda. Le deuxième aspect de la réponse, d'ailleurs pour la compléter, si tu as lu ou entendu parler de musculation haute densité qui n'existe plus, dans musculation haute densité il y avait un travail de fonte qui était combiné avec un travail d'élastique. Donc preuve que je ne réfute pas l'utilité en fait du travail de fonte, bien au contraire. Deuxième aspect de la réponse, donc les kilos que j'avais pris il y a 2 ans sont en grande partie dus au travail que j'ai fait avec Musculation Athlétique, le livre. C'était une façon de montrer un petit peu aux gens que avec le programme du livre, on pouvait effectivement obtenir des gains musculaires plus que satisfaisants en termes de masse et que du coup, on obtenait aussi une masse musculaire que j'appelle fonctionnelle, c'est-à-dire masse musculaire utile qui permet en fait de faire des mouvements athlétiques sportifs. Voilà.
Ok, bon bah je pense que là t'as bien répondu. Et alors il pose une autre question donc liée au CrossFit. Donc il dit qu'en ce moment on entend de plus en plus parler du CrossFit. Effectivement, spécialement depuis que Reebok a racheté là, il y avait même un stand au salon. Ils vont ouvrir une salle sur Paris, etc. Et donc, il voulait voir dans quelle mesure tu pouvais te démarquer, toi, du CrossFit avec ton approche. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent, entre guillemets, entre les deux ou...
Alors, c'est un long débat, ça. C'est une longue question, parce qu'il y a beaucoup d'hystérie autour du CrossFit, positive comme négative. Déjà le CrossFit c'est ni plus ni moins qu'un travail de circuit training qui existe depuis déjà plusieurs siècles en matière d'entraînement et de préparation physique. Glassman il a pas inventé quelque chose, il a juste marketé quelque chose, c'est-à-dire il a vraiment créé un buzz et un marketing autour de ça de manière très intelligente comme seuls les Américains savent le faire finalement. Donc ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect qui me démarque en fait du CrossFit, c'est le fait que dans le CTS, on part d'abord de la structure de l'individu, c'est-à-dire l'importance que l'individu soit équilibré avant de s'entraîner, avant de mettre des charges, avant de commencer à vouloir finalement créer de la performance. Il faut avoir suffisamment de mobilité et de stabilité articulaire afin d'éviter les blessures à court, moyen et long terme. Ensuite, à mon sens, il y a souvent de gros problèmes en fait de planification dans la pratique du CrossFit. Voilà, il y a certainement des problèmes de planification pour les gens qui comprennent pas bien mon système également, je suppose. Mais j'ose espérer qu'avec le bouquin du CTS, tout ça sera résolu. L'autre problème du CrossFit, c'est l'aspect intensif en fait de la méthodologie, qui chez des gens qui partent de, on va dire, d'un niveau d'entraînement pas très important, va favoriser à moyen terme un état un peu de surentraînement, puisque le corps met un certain temps à digérer en fait les efforts intenses. Et ce qu'on oublie souvent, et notamment ce que en CrossFit on oublie, c'est qu'il y a une récupération à court terme des capacités musculaires, cardiovasculaires, hormonales, immunitaires, nerveuses. Il y a également une récupération à moyen et long terme. Et c'est pas rare, en fait, y compris avec des gens qui s'entraînent de manière très intelligente, avec des coachs très intelligents, d'avoir des blessures, par exemple, qui arrivent 2 ou 3 ans après avoir démarré un programme intense. Je donne un exemple concret. Tout le monde connaît Usain Bolt. Jamaïcain.
Oui.
Usain Bolt, il pulvérise tout le monde une année, l'année des Jeux Olympiques, et l'année d'après, il enchaîne pendant 1 an et demi blessure sur blessure, tout simplement parce qu'il a voulu continuer en fait sur le modèle qui lui avait réussi au JO. Et bon, finalement, il aurait eu tort finalement de pas essayer, mais son coach ou lui-même ont oublié ou n'ont pas voulu écouter, c'est que le corps en fait digère 2 ans, 3 ans, 4 ans de préparation intensive pour les JO, et que forcément il y a une période de vulnérabilité à un moment donné qui va apparaître. Et c'est exactement en fait la même problématique avec le CrossFit, c'est-à-dire c'est pas rare d'avoir des gens qui démarrent à fond, qui progressent très rapidement, ça c'est indéniable, surtout quand c'est bien pratiqué, parce qu'il y a également des salles de CrossFit qui font un super boulot en termes d'enseignement des techniques, de planification, mais on oublie souvent que au bout d'un moment le corps il casse simplement parce qu'on a négligé une fois de plus le facteur récupération. Et ça c'est la grosse différence du CTS par rapport à beaucoup de le système d'entraînement, c'est que le CTS il privilégie, il intègre la récupération comme un facteur essentiel de l'entraînement. Aujourd'hui, je considère que la récup c'est un facteur aussi important en fait que l'entraînement, c'est-à-dire 1 heure d'entraînement égale 1 heure de récup dans ma vision des choses. Voilà. Donc si tu peux t'entraîner que 1 heure parce que t'as pas le temps, ben les gens je leur planifie 30 minutes d'entraînement et 30 minutes de récup. Voilà.
C'est bon? Ok. Oui, non ben ça me paraît bien. Et alors ben justement c'était la question de Brucette, elle disait que quand on a vraiment pas beaucoup de temps, qu'on est en déplacement, si on fait les exercices d'un corps sans douleur, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en 15 minutes comme travail musculaire entre guillemets?
Alors, travail musculaire, moi ce que je te conseille, Brucette, c'est de prendre par exemple avec toi le Air Trainer, puisque je sais que tu l'as acquis il n'y a pas trop longtemps, et éventuellement un jeu de bande. Tu fais un circuit du DVD Air Trainer avec voilà un circuit de peut-être de 3 séries, de 8 à 10 répétitions. D'une progression qui est adaptée à ton niveau, et puis tu choisis soit un deuxième circuit du Air Trainer, soit un circuit que tu sors de Total Band Training avec tes bandes. Voilà, et ça, 2 circuits plus ton programme d'un corps sans douleur, ça tient à peu près dans un quart d'heure, si tu fais une version courte du programme d'un corps sans douleur. Par exemple, quelques automassages, 5 répétitions et 1 série de chaque exercice correctif, ça tient à peu près dans un quart d'heure, ça te maintiendra en forme, ça limitera en fait le désentraînement, et ça te permettra justement, lorsque tu reviens de ton voyage ou de ton de tes activités professionnelles et que tu reprends un cadre d'entraînement plus régulier, de pouvoir repartir sur immédiatement, c'est-à-dire de pas avoir les grosses courbatures et tous les problèmes liés au désentraînement, en fait. Voilà.
D'accord. Et oui, bah d'ailleurs, je voulais préciser par rapport à ton livre de d'étirement, etc. Donc, on avait déjà discuté un peu en téléphone. En fait, ça c'est à adapter en fonction des gens. Et par exemple, Rudy, lui, il avait dit qu'il faisait 2 grosses séances d'étirement par semaine. Hein, c'est ce que tu avais dit, Rudy ?
Ouais, c'est ça.
Alors que, bah, par exemple, moi, en fait, les étirements, je fais 10 minutes après chaque séance, donc 6 fois par semaine. Et donc, du coup, je fais un seul étirement par, entre guillemets, groupe musculaire, et je les répète pas plusieurs fois de suite, tu vois. Et donc, du coup, ça dure 10 minutes après chaque séance. Mais donc, Rudy, il a choisi une stratégie de faire que 2 séances, mais plus longues. Donc, c'est tout ça pour dire qu'on peut, adapter, ce que...
Ouais, pour aller dans le sens de tous les deux, les gars, moi, je fais une combinaison, en fait, de ce que vous faites déjà. Moi, je fais grosso modo un quart d'heure à 20 minutes d'étirement, automassage après mes séances d'entraînement. Et je consacre, comme Rudy, 2 séances globales par semaine, qui durent à peu près 2 heures aux automassages, corrections posturales et étirement. Voilà, c'est pour aller dans votre sens. Moi, j'appelle ça la journée des tissus, c'est-à-dire j'utilise les techniques de récup vraiment comme un stimuli d'entraînement, mais orienté vers la récupération des tissus musculaires, quoi. Voilà.
Ok, alors on continue. Donc après, donc ça va être des questions qui sont plus liées à la musculation classique, forcément, vu que ça correspond au public de Superphysique.
Absolument.
Donc il y a Archimède qui dit que souvent, on dit qu'il faut faire du squat ou du soulevé de terre parce que c'est des exercices fonctionnels et que ça apprend à soulever des charges en plaçant bien son dos, enfin, soi-disant, c'est l'argumentaire qu'on donne. Et donc du coup, il demande, est-ce que ça peut être considéré comme des exercices correctifs de posture de faire du squat et du soulevé de terre ?
Alors pour moi, la réponse est clairement non, et je m'explique. Le système musculaire, on peut le décomposer en deux grandes familles. Des fibres musculaires, des muscles qui sont spécifiques au maintien postural, au maintien des articulations pour des gestes, on va dire, de la vie de tous les jours, pour des gestes qui ne demandent pas finalement un gros développement de force, de puissance ou d'énergie. Et après, tu as une musculature qui est plus orientée justement sur le mouvement, et sur des mouvements un peu plus dynamiques, de grande amplitude, etc. Et clairement, en fait, le soulevé de terre et tout ça agissent sur cette musculature-là. Donc, c'est déjà une musculature qui a tendance à être déséquilibrée par rapport à la musculature profonde, qu'on n'utilise pas ou pas bien, en fait, ou qui est souvent un petit peu amnésique de ses fonctions. Pour en savoir plus, et pour pas redire toujours la même chose dans les podcasts, replongez-vous dans Un corps sans douleur et sculptez vos abdos. Mais grosso modo, pour moi, non, on peut pas faire de la correction posturale avec du soulevé de terre. En revanche, si tu fais de la correction posturale et que tu fixes, en fait, les progrès avec un soulevé de terre qui est bien exécuté, avec d'autres mouvements que tu as cités, alors là, tu renforces finalement les progrès que tu obtiens avec ta correction posturale. C'est assez logique, la correction posturale travaille sur les fondations, la stabilité articulaire, et puis les exercices que tu as cités de musculation, eux vont travailler plus sur le mouvement au sens large, les gros mouvements corporels, quoi. Voilà.
Ok, alors pour rester sur le squat, donc justement il y a Alain SPN qui avait écouté notre dernier podcast et il est un petit peu confusé. Parce que tu avais dit qu'il fallait pas trop retenir sa respiration et rentrer le ventre, d'après lui. Ouais. Et donc il a essayé ça, mais en fait du coup il est plus naturel dans sa façon de faire le squat. Donc est-ce que tu pourrais rappeler pour toi comment faut faire le squat de la meilleure façon possible ? Il faut rentrer le ventre, machin, comment respirer, etc.
D'accord. Alors, on va faire un exercice pratique. Alain, tu vas, pendant que tu écoutes ce podcast, tu vas te lever. Voilà, on va se lever tous les deux. Je me mets debout. Ok, donc ce que je vais faire, première étape, je vais contracter le plancher pelvien, c'est-à-dire stop pipi ou stop caca, première phase. Deuxième phase, je vais légèrement aspirer le nombril. Le but, c'est pas de plaquer le nombril contre la colonne, mais simplement légèrement rentrer le ventre, un tout petit peu. Troisième phase, je m'installe avec les deux premiers éléments sous ma barre, d'accord ? Je fixe cette position, je vais inspirer, et à ce moment-là, il va y avoir le diaphragme qui va légèrement se gonfler et qui va mettre en tension également la sangle abdominale. Je déplace ma barre et puis je vais fléchir les jambes tout en maintenant cette respiration légèrement bloquée pour verrouiller en fait ma sangle abdominale, créer un petit peu plus de pression intra-abdominale. D'accord ? Et une fois que je serai en position basse, toujours pareil, il ne faut pas que je lâche mon plancher pelvien, il ne faut pas que je lâche la tonicité du nombril, des abdos, je vais pousser dans mes fesses pour me relever. Est-ce que c'est assez clair, Alain ? Si ce n'est pas, on reviendra dessus au prochain podcast.
Sinon, tu feras une petite vidéo sur ton YouTube.
Faire une vidéo YouTube sur la bonne exécution du squat, ça peut être une bonne idée, ça, effectivement.
Alors, toujours pour rester sur le squat, donc il a lu ton livre « Gainage et pliométrie ». Oui. Et où tu préconises d'utiliser une bande élastique autour des genoux, oui. Au squat jump. Oui. Et il te demande s'il peut l'utiliser au squat classique. Il dit qu'il a essayé, qu'il a de bonnes sensations avec la bande rouge, mais que oui. La bande bleue que tu recommandais, ça lui semble un peu trop difficile pour lui.
Donc, première réponse, oui, c'est même très intéressant de l'utiliser, surtout si tu as des problèmes de contrôle des genoux, si tu as... problème de contrôle au niveau des chevilles ou de la voûte plantaire, à savoir trop de pronation, c'est-à-dire les pieds qui écrasent trop vers l'intérieur. Donc très très bon d'utiliser en fait la mini bande autour des genoux pour pousser latéralement et favoriser le recrutement moteur des muscles fessiers et des rotateurs externes de hanche. Et deuxième chose, en fait. Tu donnes toi-même la réponse, Alain. Tu choisis la bande qui est la plus adaptée, en fait, au meilleur contrôle que tu arrives à tenir. Si la bande bleue est trop importante, à ce moment-là, ben, tu utilises une bande plus faible, tout simplement.
Ok, très bien. Alors, toujours pour rester sur le squat, donc c'est Fredo Junior qui pose une question, mais il n'a pas été assez précise. Il dit qu'il a mal au lombaire après le squat, mais il ne précise pas si c'est musculaire ou non. Et il se demande s'il doit arrêter le squat ou est renforcer ses lombaires. Et donc, comme on ne sait pas si c'est une douleur musculaire ou pas, ça va me paraître difficile de répondre.
Ouais, même raisonnement que toi, Fabrice. Déjà, une douleur aux lombaires, c'est effectivement très vaste. Ça peut être simplement, effectivement, des contractures résiduelles dues à soit une charge qui est trop importante, soit un mauvais recrutement moteur, c'est-à-dire que quand tu squattes, au lieu d'utiliser en priorité tes fessiers, tu utilises de manière prioritaire tes lombaires pour fixer ta colonne et exécuter le mouvement. Il y a beaucoup de gens en fait qui pensent faire du squat et qui ont plus une cinétique de mouvement, c'est-à-dire une logique de mouvement qui se rapproche du soulevé de terre quand ils font du squat parce que le torse descend trop vers l'avant. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, à moins que tu nous clarifies pour un prochain podcast, si c'est une douleur aiguë dans les lombaires, c'est-à-dire dans la région lombaire, effectivement, là, il faut faire attention, voire même consulter si tu as une pointe dans le dos. Si par contre, c'est tout le temps, tu as des barres le long de la région lombaire, tes muscles sont très durs, très douloureux, très contractés, certainement parce que tu exécutes mal ton squat, encore une fois, en utilisant prioritairement tes muscles paravertébraux au lieu des muscles fessiers, ou que tu prends une charge qui est trop lourde et forcément, ben, tes lombaires, elles se spasment, elles se contractent pour, tes muscles paravertébraux se contractent pour protéger ta colonne. Voilà.
Ok. Ouais. Non, mais il faut préciser que le squat, c'est quand même, même si c'est l'exo basique de la musculation, enfin, l'exo le plus connu, c'est pas un exo si facile que ça, et le faire chez soi tout seul, des fois on croit qu'on le fait bien, mais en fait... C'est possible qu'on le fasse mal, hein. C'est assez compliqué le squat, hein, mine de rien.
Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un grand pourvoyeur de problèmes articulaires et de blessures, le squat. C'est un des mouvements rois de la musculation. Mais pour en revenir à une des réponses que j'avais données à Thébauda au début du podcast, N'oubliez pas une chose, c'est que avant de mettre des poids sur vos épaules, il faudrait être capable, par exemple, d'avoir la bonne mobilité, la bonne stabilité au niveau des hanches, au niveau des chevilles, au niveau de la colonne vertébrale, pour pouvoir être sûr que la logique du mouvement de squat est bien bien assimilée par le corps, et puis progressivement pouvoir mettre effectivement de la compression, c'est-à-dire des charges sur les épaules. Et ça se fait pas en mettant directement du poids sur les épaules. On vérifie pas son squat en mettant une charge lourde et en voyant ce qui se passe. Comme parfois je le vois encore dans certaines salles de muscu, voilà, où je le lis sur internet.
On avait fait Rudy avait fait un article là-dessus là qui s'appelait squat, et justement c'est ce qu'il disait, il y a beaucoup de personnes qui squattent alors qu'ils ont pas la mobilité pour le faire, puis finalement ça revient à faire comme si c'était des étirements sous une contrainte avec voilà. Une charge. C'est la charge qui fait descendre l'étirement.
Ouais. Je suis assez d'accord avec Rudy, on peut même compléter une chose. C'est que le problème, en plus, pour compléter ce que Rudy dit, c'est que très souvent, en fait, si tu mets une charge, effectivement, donc tu vas créer une sorte de mobilité forcée grâce à la compression de la charge, mais généralement, la mobilité, elle va toujours se focaliser sur l'endroit qui est déjà mobile. Donc elle va toujours aller forcer à l'endroit qui a déjà suffisamment de mobilité. Elle va rarement s'adresser à la zone qui finalement aurait le plus besoin d'être mobilisé, étiré, etc. Et c'est là encore une fois que ce genre de pratique peut se retrouver dangereux, parce que si effectivement tu fais du squat pour améliorer ta mobilité, mais que cette mobilité elle s'exerce pas au bon endroit, eh ben l'endroit sur lequel elle s'exerce, il va être encore plus mobile, avec le risque de casser, de se blesser. Ça peut être le cas d'une zone de la colonne, par exemple. Ou par exemple, si on prend les genoux, qui sont déjà une articulation assez mobile, contrairement aux chevilles ou aux hanches, ben on prend le risque, encore une fois, d'avoir des douleurs de genoux qui apparaissent à cause, justement, d'une mauvaise pratique du squat. Voilà.
Ouais. Ben nous l'année dernière, on avait fait peut-être il y a 2 ans, on avait fait un concours. C'était juste du squat à vide, donc ce qu'on appelle du squat indien. C'est du squat en amplitude complète, mais où les talons décollent du sol en bas. Tu vois, donc t'as le dos strictement vertical et les talons décollent. Et ben en fait, il y avait des gens qui avaient envoyé des vidéos pour participer à ce challenge. Et ben figure-toi qu'il y avait la moitié des gens en fait qui arrivaient même pas à faire le mouvement correctement, c'est-à-dire même sans charge. Ils n'arrivaient pas à s'accroupir et à combiner à la fois de lever les talons, d'avancer les genoux et de garder le dos vertical, quoi. Et j'étais assez halluciné de me dire que ces gens-là, ils postaient sur le forum leur séance de muscu. Alors que déjà, sans charge, ils n'arrivaient même pas à faire un squat complet tout seul, quoi, tu vois. Donc, ça rejoint exactement ce que tu dis, quoi. Ils n'avaient même pas la mobilité au niveau des chevilles et des genoux, quoi. C'est assez fou, hein.
Je l'ai déjà dit dans les stages, je crois que je l'ai déjà dit sur des podcasts avec vous, je l'ai déjà dit dans mes bouquins. Grosso modo, avant en fait de vouloir effectuer du squat ou de la pliométrie, il faudrait être capable de faire un squat complet à vide, c'est-à-dire les fesses collées quasiment au niveau des talons, comme on s'assoit finalement dans certains pays du tiers-monde. Et être capable finalement d'exécuter des flexions, des squats complets dans cette position, sans éprouver de douleur au dos, aux hanches, aux genoux, aux chevilles. Et seulement si on est capable de ça, ben, soit charger le mouvement, donc squat classique, squat d'une jambe ou ça, ou éventuellement l'accélérer par des exercices comme la plio ou des trucs comme ça. Voilà, donc un bon test chez vous. Si vous faites le squat complet à vide, ben allez-y, chargez. Si vous le faites pas, ben on vous aura prévenu. Voilà.
Ok. Alors une question sur les lombaires. Alors d'habitude, donc c'est Julien. Donc il dit d'habitude au banc à extension lombaire. Donc on fait des comment dire. Il y a juste les hanches qui bougent et on a le dos droit. Mmh. Et donc Rudy il a présenté un exercice sur le site. Où on enroule et on déroule la colonne vertébrale. Si tu veux, c'est comme un crunch, mais à l'envers pour les lombaires, tu vois. Mm-hmm. Et donc, il voulait savoir si c'était pertinent de travailler les lombaires comme ça de façon dynamique ou si ça n'avait pas vraiment d'intérêt. En fait.
Alors, c'est intéressant. Déjà, l'exercice du banc à lombaire, donc c'est un exercice assez intéressant, un exercice de base, ce qui va permettre d'apprendre au corps à créer finalement un mouvement d'extension au niveau des hanches. Donc c'est d'abord un mouvement qui doit partir des hanches, c'est d'abord les fessiers finalement et les ischios qui doivent produire le mouvement, et ensuite le haut du corps, dans le mouvement originel, doit rester rigide, donc gainé finalement. Donc il ne devrait pas y avoir de mouvement. L'essentiel du travail devrait être ressenti à la base dans les fessiers et dans les ischios. Très souvent on s'aperçoit que c'est pas le cas et que c'est souvent la région paravertébrale, les muscles paravertébraux qui prennent tout le travail, encore une fois à cause d'un déficit de force, de recrutement moteur, c'est-à-dire de contraction musculaire des muscles fessiers, par exemple. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Ensuite, deuxième élément de réponse, ce que Rudy propose est assez intéressant, parce qu'on s'aperçoit aussi que de la même manière qu'on peut avoir un mauvais recrutement moteur au niveau des fessiers, on peut également avoir un mauvais recrutement moteur à certains étages, en fait, de la colonne vertébrale. Donc, il peut y avoir certains étages, c'est souvent le cas, par exemple, de la région lombaire, qui sont relativement forts. Mais on sait, par exemple, que la région thoracique de la colonne manque souvent, en fait, de force au niveau de ses stabilisateurs. Et donc, vont recruter des muscles plus superficiels encore, comme les trapèzes, pour fixer les vertèbres ou les mobiliser, ce qui peut poser des problèmes, notamment à long terme, des problèmes au niveau d'adhérence, de mobilisation finalement de la colonne, voire même de schéma respiratoire un peu modifié. C'est un peu compliqué de parler de tout ça en quelques minutes, mais la proposition de Rudy, enfin à mon sens en tout cas, si elle est faite à vide par exemple, ça peut être considéré véritablement comme un exercice correctif qui peut être très intéressant. Moi perso, mais encore une fois, hein, je détiens pas la vérité absolue, je chargerai pas sur ce genre d'exo justement pour éviter qu'un étage thoracique un peu faible subisse un stress trop important, par exemple, et qu'un disque s'abîme sous les forces de cisaillement. Voilà.
Mmh. Enfin là, il n'était pas question de charger, c'était vraiment juste un enroulement, déroulement de la colonne vertébrale. Tu peux préciser, Rudy, de quel exercice il s'agit peut-être? Tu vois ce que je veux dire?
Mais je l'ai appelé enroulement, déroulement de... Non, mais c'est des lombaires, donc...
Pas très bien, tu fais l'exercice sur la chaise à lombaire, si j'ai bien...
Voilà, et tu règles le support un peu plus haut que les hanches, et en fait le mouvement ne se passe qu'au niveau de l'arrondi du bas du dos, en gros.
Ouais, complètement, d'accord. Ouais, mais c'est une très bonne manière de voir les choses, et de renforcer de manière un peu isolée certains muscles profonds, donc... Ça peut être une bonne manière d'approcher une correction posturale. Donc, excellente idée, Rudy.
Alors, donc il reste encore plusieurs autres questions sur cette thématique, mais comme on a déjà passé 30 minutes, je vais juste en sélectionner une dernière au hasard et on va passer à la section suivante. D'accord. Donc, c'est Sendo Takashi qui demande si le CTS, ça peut s'appliquer à des jeunes de 6, 10 ans, 10, 13 ans ou 14, 16 ans, et éventuellement, quelles adaptations on pourrait faire pour que cela s'adresse à eux.
Alors, le CTS, bien entendu, ça s'adresse à des jeunes. De tout âge, la seule problématique, c'est qu'effectivement, il faut garder un aspect très ludique à la pratique avec les enfants. D'une part, parce qu'ils sont à une période où ils comprennent pas forcément pourquoi tu peux leur imposer ou tu peux les diriger dans une certaine direction, mais qu'il faut arriver à trouver une manière d'appréhender et de proposer les exercices de façon complètement ludique. Moi, par exemple, j'ai eu des groupes d'ados, ils aiment beaucoup le travail avec le bâton de massage, parce que c'est un petit peu un jeu. Alors on parle de leur vie, de leurs problèmes, etc. Et on discute comme ça en se massant. Ça permet de passer le temps tout en faisant quand même un travail corporel. Ce que je privilégierais, par exemple, avec les ados, c'est le bon placement avec des exercices basiques, des exercices qui partent du sol et qui se terminent debout. Des exercices comme le bulldog, c'est-à-dire où tu marches au sol avec les pieds et les mains au sol, des déplacements de ce style, de manière à vraiment renforcer le gainage d'une manière un petit peu ludique, travailler la mobilité de manière ludique, et j'intégrerai progressivement des exercices d'agilité. Voilà, principalement ça. On sait que chez les enfants et les ados, faut éviter les sollicitations trop en endurance, parce que le système cardiovasculaire est pas suffisamment mature et pas trop prêt pour ça. D'ailleurs, c'est ce que font naturellement les enfants, hein. Ils courent un petit peu quand ils veulent, ils s'arrêtent un peu quand ils veulent, ils courent quand ils veulent, ils s'arrêtent quand ils veulent. Spontanément, ils savent à peu près ce qui est bon ou pas pour eux, quoi. Donc, pour répondre de manière plus pragmatique, oui, le CTS s'adresse aux enfants. Après, il faut être suffisamment cohérent dans sa compréhension pour pouvoir le proposer de manière plus ludique qu'on pourrait le faire avec un public adulte, quoi. Voilà.
Bon, bah éventuellement, ça te fera une idée de chapitre sur le livre, hein, qui va sortir.
Ah, merci. Encore. Il fera 1000 pages si ça continue.
Ok, alors on passe à la deuxième thématique. Donc, comme il reste 30 minutes, on va faire un quart d'heure sur un corps sans douleur et le travail postural, et puis on fera un quart d'heure sur la préparation physique et la course à pied. Donc, okay. Je commence par les questions les plus génériques, et puis après, je descends aux questions un petit peu plus perso, qui intéresseront moins de monde. Donc, il y a Dibi qui demande si une femme enceinte peut faire du travail postural ou des exercices, parce que il y a des infos contradictoires là-dessus.
Alors, correction posturale, non, aucune. Voilà, les exercices d'automassage, non, pas de problème majeur. Au contraire, les exercices posturaux chez une femme enceinte, ça va être intéressant. Ça va maintenir une certaine mobilité au niveau notamment du bassin. Ça va garder une détente au niveau des muscles paravertébraux. Et une des conséquences, par exemple, de la maternité, c'est... très souvent des problèmes de sciatique très importants à cause de l'excès de cambrure qui se crée avec le développement en fait du bébé dans le ventre. La femme se cambre énormément et donc du coup ça compresse un petit peu les disques et le sciatique. Donc un corps sans douleur va vachement aider justement à ça, à préparer, relâcher un petit peu les tensions ou les problématiques induites par la maternité. Il n'y a pas de contre-indication majeure, si ce n'est que la future maman reste à l'écoute de son corps, voilà, avec de la non-douleur, comme c'est un des principes majeurs du CTS.
Bon. Alors, il y a Cédric Dumais qui dit qu'il marche en canard, et il voudrait savoir s'il y a des exercices qu'il pourrait faire pour, je sais pas, entre guillemets, rééquilibrer sa marche ou...
Alors, c'est une question qui est intéressante et en même temps un peu vaste, parce que tu peux marcher en canard et par exemple être pronateur, ça veut dire que tu vas avoir tu vas écraser tes pieds à l'intérieur en fait du pied. Donc là, il y a une stratégie de correction particulière, et tu peux être supinateur et marcher en plus en canard, c'est-à-dire marcher en canard avec en restant sur le côté externe du pied. Et donc là, il y a encore une autre stratégie correctrice différente. Pour faire simple, quand tu marches en canard avec un excès de pronation, il va falloir passer du temps à travailler sur les muscles tenseurs du fascia lata, sur le côté de la hanche, adducteur et tous les muscles latéraux autour du tibia. Sur le côté externe, quand tu es supinateur et que tu marches en canard, c'est-à-dire donc vraiment en appui sur l'extérieur du pied et que tu marches en canard, là je vais devoir travailler principalement sur les rotateurs de hanche, relâcher les rotateurs de hanche profonds, travailler sur la mobilité du muscle fessier et éventuellement renforcer un petit peu mes adducteurs pour remettre l'ensemble de la jambe un peu plus dans l'axe. Comme élément de réponse.
Ok. Juste une parenthèse, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens, ils se focalisent trop sur les détails. C'était un peu un article aussi qu'avait fait Rudy sur la musculation il y a pas longtemps sur son blog. À mon avis déjà, si les gens ils font tous les exos d'un corps sans douleur lié à leur posture ou les trucs ou les exercices qu'il y a dans ton livre de stretching, déjà quelle que soit un petit peu leur problématique, je pense que ça va se résoudre un petit peu d'eux-mêmes entre guillemets. Il y a peut-être pas besoin à chaque fois de rentrer dans le de s'attarder sur la marche en canard et peut-être que le travail postural global va peut-être déjà réduire ce fait sans forcément avoir à le travailler de façon spécifique, tu vois ce que je veux dire?
Absolument, je suis d'accord avec toi Fabrice, mais bon, c'est dans la nature humaine de vouloir se focaliser toujours sur quelque chose en particulier plutôt que de regarder les choses de manière globale. Donc il existe des solutions, mais je pense comme toi qu'effectivement, si déjà on a une approche corporelle globale, une approche de correction du corps de à l'échelle de l'ensemble du corps, déjà on peut faire pas mal de choses et beaucoup de choses peuvent se corriger, quoi. Voilà.
Alors il y a Fredo Junior, donc lui qui est un peu désespéré, dit qu'il a eu un accident de voiture avec une entorse cervicale et qu'il a fait du kiné, du repos, et il dit qu'il a toujours mal. Mais il dit pas s'il fait un corps sans douleur. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'il est un peu perdu, puis il voudrait quelque chose, comment dire, une solution pour qu'il ait plus mal, je sais pas, moi.
Une solution miracle, Christophe.
La solution miracle pour plus avoir mal, sachant que manifestement, le kiné, ça marche pas.
Alors déjà, c'est toujours compliqué et c'est pas anodin, un accident de voiture, etc. Donc, on va éviter de faire de la médecine au rabais et à 4 sous. Première des choses, retourner voir son médecin ou éventuellement en changer si on trouve qu'il n'est pas compétent. Il y a des bons médecins, il y a des médecins moins bons, donc faut pas hésiter à rechercher. Deuxième des choses, masser tous les muscles autour du cou. J'ai déjà proposé une vidéo récente sur ma chaîne YouTube sur le sujet. Chez les gens qui ont des problèmes de cervicale, des problèmes au niveau du haut des épaules. Donc il y a beaucoup de choses à vérifier, à masser, et ça peut se faire plusieurs fois par jour, avec un bâton de massage par exemple. Qu'est-ce qu'on peut voir? Éventuellement aller voir un ostéopathe, parce que s'il y a eu un traumatisme au niveau des cervicales, il se peut qu'il y ait des petites zones qui soit encore un peu problématique, une perte de mobilité de certains étages vertébraux qui peuvent entraîner ça. La seule chose à faire attention au niveau des ostéopathes et des cervicales, c'est demander à l'ostéopathe s'il fait des manipulations en thrust ou en cracking. Thrust, c'est-à-dire des manipulations assez violentes et rapides. Le cracking, c'est la même chose, hein, on entend le gros crack caractéristique de la manip. S'il vous répond oui, il faut pas se laisser faire, surtout si on a eu un traumatisme cervical, parce que les thrusts, ces manipulations particulières peuvent être dangereuses au niveau des cervicales. Il y a tellement de structures nerveuses et des veines, des artères, etc., des ligaments qui passent là-dedans, qu'il vaut mieux toujours tomber sur quelqu'un qui manipule plus en douceur, qui manipule plus de manière contrôlée plutôt que quelqu'un qui y va un peu comme un bourrin et qui tourne la tête dans un sens puis dans l'autre. Donc, on récapitule, retournez voir le médecin, s'il y a des douleurs super dures, c'est pas normal. Si le médecin est pas suffisamment éclairé, allez voir un autre. Allez voir un bon ostéopathe, demandez conseil autour de soi. Fuir les ostéopathes qui font du thrust, des méthodes un peu violentes au niveau des cervicales. Appliquer du chaud régulièrement, surtout si les douleurs sont devenues chroniques. Masser avec un bâton de massage plusieurs fois par jour les muscles du cou et les muscles autour en fait des cervicales. Donc ça, c'est les épaules, ça peut être éventuellement les pectoraux qui se sont un peu enraidis pour protéger la région cervicale. Faire attention à la position assise, à la manière dont tu te tiens assis. Étirer tes muscles grands pectoraux si tu fais par exemple pas mal de couchers ou de choses comme ça malgré les blessures liées à l'accident, parce que si tu as les épaules trop vers l'avant, ça crée pas mal de tension au niveau des muscles cervicaux. Bref, il y a pas mal de choses à faire. Ce qu'il faut, c'est ne pas rester trop longtemps avec ces problèmes cervicales, parce que toute douleur entraîne des modifications profondes du schéma moteur et tu vas te retrouver avec d'autres compensations ailleurs dans quelques semaines ou quelques mois si tu prends pas le problème à bras le corps. Donc te désespère pas, cherche, change d'équipe médicale si besoin, va voir d'autres personnes. Il y a des gens plus compétents que d'autres, ça arrive, mais il y a des gens aussi qui sont très compétents et qui peuvent apporter des solutions. Donc cherche, voilà.
Bon, eh ben j'espère que ça va lui redonner un peu de courage. Alors, merci.
Fabrice, toujours
comment
des solutions. Il y a toujours des solutions, faut juste les trouver, c'est tout.
Alors après, donc bon, il y a Petrodark, donc ce sera la dernière question. Puis il a l'air d'être blessé de partout, le pauvre. Apparemment, il fait des tendinites à répétition, il a des douleurs aux épaules, etc. Il dit que quand il fait certains exercices, donc notamment celui de la fiche 10, exercice C, ça va bien nous aider. Il dit qu'il a les pectoraux, enfin sous les pectoraux, ça craque, les omoplates, ils craquent, etc. Donc ce que je te propose, c'est de généraliser un peu son cas, parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc on va dire qu'il y a deux grandes questions, choisir à laquelle tu veux répondre. Donc oui. C'est soit tu réponds à que faire pour diminuer le risque de tendinite, ou soit sinon tu réponds à la question que faire pour préserver la santé de ses épaules, en plus des classiques mouvement de rotateur externe ou choses comme ça, parce que effectivement les gens qui sont en posture 4, souvent ils ont un déséquilibre au niveau des épaules, une épaule qui va rester systématiquement haute et en avant, quels que soient un petit peu les exercices qu'ils font. Ouais. Et donc il a l'air un peu donc Petrodark et puis même Waterflow. C'est donc une personne. Ils ont l'air un petit peu désespérés au niveau de leur épaule parce qu'ils n'arrivent pas à retrouver un bon placement, bien qu'ils semblent faire des exercices. Donc tu choisis tendinite ou épaule.
Je vais répondre rapidement à Pedro Dark en premier, parce qu'il m'a envoyé également un mail pour d'autres soucis. Donc apparemment, par rapport à ton mail, Pedro Dark, le souci dans ton cas, c'est plus un souci d'ordre alimentaire certainement, puisque bon, il y a plusieurs personnes de sa famille qui ont des maladies inflammatoires chroniques. Donc il y a quelque chose dans votre alimentation à changer pour faire diminuer en fait la problématique inflammatoire chronique. Donc, ça c'est vraiment le premier aspect. Surtout si toi tu as des galères tendineuses récurrentes, des douleurs articulaires récurrentes, et qu'en plus une autre personne de ta famille a ce genre de problème et encore une autre, je crois. Donc il y a un facteur génétique qui doit être important. Donc il y a effectivement quelque chose à vérifier au niveau de votre alimentation. Peut-être une intolérance alimentaire au laitage, au gluten, etc. Donc des choses de ce style à voir. Faut pas, encore une fois, comme j'ai répondu juste avant, faut pas hésiter à aller voir d'autres personnes que les médecins que tu as pu voir. Non pas que les médecins sont tous mauvais, mais il y a des médecins qui sont plus calés dans certains domaines que d'autres. Donc faut pas hésiter à aller voir un spécialiste, par exemple, des maladies inflammatoires ou un spécialiste des maladies rhumatismales, etc. Donc voilà ce que je pourrais te dire. Après la question sur les épaules. Le gros souci en fait quand on est une épaule plus haute que l'autre, c'est généralement que l'épaule compense pour un problème au niveau du bassin. Les épaules plus hautes que l'autre, c'est un problème de scoliose, une attitude scoliosique, c'est-à-dire une courbe qui se fait latéralement sur la colonne, et l'épaule n'est qu'une adaptation en fait de ce qui s'est produit au niveau de la colonne. Donc la première des choses, c'est voir avec éventuellement un ostéopathe si c'est une scoliose qu'on appelle structurelle, c'est-à-dire vous êtes né comme ça, vous avez toujours eu ça, ou alors si c'est une scoliose qu'on appelle fonctionnelle, qui est plus une scoliose qui est liée à un certain nombre de déséquilibres musculaires ou à des problématiques liées justement au niveau du bassin. Donc ça, un bon ostéo peut te renseigner là-dessus. Et ensuite, et bien évidemment, éviter de se focaliser trop sur l'épaule, mais peut-être revenir à des exercices qui se focalisent un tout petit peu plus sur la région thoracique. Travailler sur un meilleur alignement avec des exercices de gainage, revenir finalement à des choses peut-être plus simples que vous faites déjà avec vos exercices correctifs ou vos exercices de correction posturale. Et si vous avez un corps sans douleur, l'exercice qui est le plus adapté, je crois que c'est l'exercice 5 de la posture 4, où on fait une translation face contre terre, le corps allongé face contre terre, on fait une translation de tout le corps de droite à gauche. C'est un exercice qui fonctionne bien pour les épaules plus hautes que l'autre. Voilà. Après, c'est toujours très compliqué de faire des réponses comme ça. Chaque individu est différent, chaque adaptation corporelle correspond à une problématique particulière. N'oubliez pas qu'un corps sans douleur, c'est un livre dans lequel j'ai essayé de rassembler des grands schémas en cette posturo, des grosses problématiques qui reviennent de manière assez récurrente. Ça ne veut pas dire que chaque individu est identique ou chaque individu correspond juste à 4 ou 5 postures. Chaque individu est différent. Et l'historique de chaque personne est différente. Donc, le corps s'est adapté pour chaque personne de façon différente, en fonction du vécu, en fonction de la pratique sportive, en fonction de vos activités professionnelles, quotidiennes, etc. Donc, voilà, faut toujours garder ça en tête et ne pas hésiter, quand on a des galères, à aller voir des personnes. Les livres que j'ai écrits ne sont pas des recettes miracles à tous les problèmes de la planète.
Et puis bon, justement, donc c'est un des avantages aussi d'aller à ton stage, c'est que tu peux côtoyer la personne pendant une semaine et puis donner des conseils un petit peu plus personnalisés. Quoi, parce qu'avec le podcast, on traite un peu des cas un petit peu génériques qui intéressent le plus possible de monde. Mais effectivement, si vous voulez quelque chose de plus perso, ben c'est sûr qu'il faut se déplacer. Puis le stage est fait en partie pour ça, n'est-ce pas?
Ouais, non, mais complètement. C'est souvent ce que je dis aux gens. Hein, voilà, c'est souvent si le budget te le permet, tu viens une semaine au stage et tu en ressors avec une tonne d'informations en termes de matière d'entraînement et également à titre personnel, parce que effectivement je donne des petits conseils en fonction de ce que je vois et en fonction des problématiques que les gens m'exposent durant le stage. Donc forcément c'est toujours une expérience qui est enrichissante et grandissante, quoi.
Voilà. Alors, donc, désolé pour les autres questions éventuellement que j'ai dû sauter. On va passer un petit quart d'heure sur la préparation physique. Alors, il y a quelqu'un, j'ai pas noté son pseudo. Alors, il a bien lu tes livres Préparation physique pour les sports de combat et Musculation athlétique et autres ouvrages récents. Et il a constaté qu'il y avait un petit changement au niveau des cycles que tu préconises. Ouais. Alors, il nous dit que avant, dans préparation physique pour les sports de combat, tu préconisais un cycle sur 3 semaines à 180 et 30%. Et apparemment, dans tes ouvrages plus récents, t'es plus à 4 semaines à 180, 80, 30. Alors, ouais. Je sais pas si tu te souviens de ça et si tu peux expliquer pourquoi cette différence, si t'as mûri ou si...
Oui, disons que le livre sur la préparation physique, c'est un livre que j'ai écrit en 2003, il est sorti en 2004. 2003, 2004, 2012, vous voyez qu'il y a, il y a bientôt 9 ans qui séparent ce livre avec mes connaissances actuelles et ma vision actuelle, donc forcément elle évolue. Aujourd'hui, je privilégie plus effectivement une approche dégressive à 4 semaines qui va permettre première semaine intensité et volume maximum, deuxième et troisième semaine on dégressif. Et puis, quatrième semaine, on récupère. Pourquoi un schéma à 4 semaines? Tout simplement parce que un mois à 4 semaines et que dans une logique de planification, c'est beaucoup plus facile pour la majorité des individus de se fixer sur un mois plutôt que de 3 semaines, qui reste toujours sur un calendrier ou sur un agenda, ça reste toujours un petit peu plus complexe à mettre en place. Donc, 4 semaines, voilà pourquoi, tout simplement.
Alors après, il y a Béranco qui pratique le taekwondo et donc il se souvient des méthodes de stretching de Bill Wallace et Dominique Valera, donc deux grands champions. Mmh. Et donc c'était des techniques qui étaient assez agressives en termes de stretching parce qu'il fallait un partenaire et il y avait un travail forcé. Ouais. D'après lui, c'était très efficace et donc il voulait savoir ce que t'en pensais en fait.
Alors, c'était tellement efficace en fait que Bill Wallace a deux hanches en titane. voilà, donc pour citer un autre grand champion qui a été mon professeur, Jean Frenette, qui a aussi popularisé pas mal de méthodes d'étirement. Lui aussi, il a eu une prothèse de genou et deux prothèses de hanche. Donc vous voyez que des méthodes qui sont utilisées encore et ont été utilisées pendant des années, y compris par des grands champions, à qui ça n'enlève pas du tout leur compétence, hein, ils n'étaient pas forcément au courant. Aujourd'hui, on connaît un tout petit peu mieux l'anatomie, on connaît un tout petit peu mieux le fonctionnement articulaire, musculaire, physiologique, et donc beaucoup de ces méthodes sont complètement destructrices, déjà parce qu'elles sont déséquilibrées, c'est-à-dire on travaille beaucoup sur l'ouverture dans tous les plans pour faire les écarts, mais on ne travaille pas de manière équilibrée. Donc ça c'est la première problématique. La deuxième problématique, parce qu'encore une fois la structure articulaire de la hanche est très différente d'un individu à l'autre. Il y a des gens qui ont des gros fémurs avec des grosses têtes fémorales, il y a des gens qui ont des petites têtes fémorales mais avec un cotyl de hanche, c'est-à-dire une articulation dans laquelle s'emboîte la tête fémorale qui est très très profonde. Donc du coup toutes ces modifications articulaires font que les mouvements que vont être capables de faire les individus vont être différents. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais forcer un assouplissement, parce qu'on ne sait pas, à moins d'avoir fait un IRM et un arthroscanner, on ne connaît pas exactement la forme de ces articulations et ce qu'elles sont capables de subir. D'ailleurs, c'est très très fréquent chez les pratiquants d'arts martiaux de toujours se plaindre des hanches, de toujours faire des exercices d'assouplissement forcé et de toujours dire « ouais, mais le problème, c'est que ça me fait super mal dans les hanches. » Moi, je dois recevoir, je sais pas, 15 mails de ce style par semaine à peu près. Donc, pour répondre à ce genre de questions, il y a Total Kick Training qui arrive, j'espère, fin avril, début mai, et qui proposera justement des alternatives, notamment avec des techniques de mobilisation articulaire, décompressées avec des bandes, justement pour répondre aux diverses problématiques de hanches qu'on peut retrouver. Mais de façon globale, il ne faut pas forcer sur une articulation, il ne faut pas la mettre en porte-à-faux. On peut s'amuser à faire Jean-Claude Van Damme ou à prendre une photo comme ça de temps à autre, mais si vous faites ça de manière régulière, vous allez avoir de gros pépins à long terme sur vos hanches. Voilà les copains.
Je me souviens, j'avais acheté un truc sur Karaté Bushido, c'était justement pour pouvoir forcer son grand écart. C'était un appareil, tu mettais un truc au niveau de chaque pied, et après tu tirais, et hop, ça t'écartelait les pieds.
C'est toujours vendu, hein, Fabrice, ça s'appelle ça, c'est toujours vendu, quoi. Donc, preuve que tu as beau écrire des livres, faire des articles dans Karaté Bushido tous les mois, ça, le message, il passe toujours pas, quoi. D'ailleurs, pour terminer, il citait Dominique Valera. Dominique Valera, c'est un des rares champions à ne pas utiliser de technique, on va dire, compressée, c'est-à-dire de technique forcée. Dans ses stages, il prête beaucoup d'attention à faire des exercices de mobilisation articulaire, souvent en grande amplitude, parce que sa souplesse lui permet. Mais il le dit lui-même qu'il faut faire très attention aux exercices de stretching ou d'étirement forcé, quoi. Voilà.
Bon, alors je vais choisir une autre question, parce qu'il en reste plein, mais il n'y a plus beaucoup de temps. Alors, une facile, je pense. Donc, Archimède, qui est cycliste, qui demande s'il peut adapter ton livre « Meilleure façon de courir » au cyclisme, et en particulier au niveau des cycles de travail, toujours on et off, et puis au niveau de la fréquence cardiaque de travail.
Oui et non. Alors, au niveau des programmes, ce qu'il faut, en fait, c'est que tu doubles le temps de chaque programme, parce que la cinétique cardiovasculaire au niveau de la pratique du vélo est pas du tout la même que sur la course à pied. Donc tous les programmes de fractionner, par exemple, qu'il y a dans la meilleure façon de courir, il suffit juste que tu les multiplies par deux pour avoir un truc qui se rapproche un tout petit peu plus de quelque chose qui est plus adapté au vélo. Deuxième élément de réponse, qu'est-ce que c'était, Fab? Je sais plus.
Ben, c'était la, enfin, les jours de repos et d'activité, et puis la fréquence cardiaque, c'est tout ce que j'avais comme question.
Ouais, ben, les jours d'activité, oui, les de repos, c'est ça. Et pour avoir lu les questions ce matin, il posait aussi quelque chose sur les problématiques posturales liées au vélo.
Ah oui, non, ça c'est une autre question, c'est Franck Mir. En fait, il dit quand on a une mauvaise posture et qu'on veut faire un travail de cardio training, est-ce qu'il faut mieux faire du vélo ou de la course à pied, en fait, pour moins se bousiller?
Moi, je choisirais la course à pied pour une raison simple, c'est qu'on passe déjà trop de temps plié en deux, voûté avec la position assise. Donc, je choisirais une activité cardio qui est plus dans l'extension, plus dans la verticalité, plutôt que quelque chose qui est plié en deux comme le vélo. Si le vélo remplacer la course parce que j'ai des problèmes au niveau des genoux ou j'ai des problèmes au niveau de la colonne, à ce moment-là, je peux utiliser un travail de rope training, comme j'en propose dans le CTS, avec une grosse corde qui permet justement de travailler l'aspect cardiovasculaire sans mettre trop de traumatisme au niveau des hanches, du dos, des genoux, tout en gardant cet aspect un peu vertical du corps, voilà.
Bien crevant le travail à la corde, hein. Je sais pas si tu te souviens, Rudy.
Ouais, bah moi j'en ai fait encore cet hiver, j'aimais bien, en fait c'est vachement cardio.
Ah, moi j'adore.
Et sans traumatisme, quoi.
Ouais. Ce soit pour le... Excuse-moi, Rudy.
Non, vas-y, je disais, pour moi qui suis lourd, c'est vraiment bien, quoi.
Ouais. Et que ce soit pour le travail cardiovasculaire ou même pour terminer une séance, par exemple, orientée masse, ou orienté sèche, c'est terrible, quoi. Tu peux utiliser des protocoles différents, mais moi j'adore vraiment cette façon de travailler, quoi. Voilà.
Et en plus, il n'y a pas besoin d'en faire longtemps. C'est ça qui est bien.
Ah, ça c'est clair. Je suis d'accord avec toi.
C'est ça qui est bien, parce que souvent on fait du cardio, on se fait chier, alors que là, déjà des séries de 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, bon bah, t'es content.
Ouais, et t'es pas bien surtout à la fin.
Alors, ben justement, ce sera la dernière question sur le travail cardiovasculaire. Donc, c'est toujours Beranco, là, le pratiquant de taekwondo. Il se demande finalement si ça vaut la peine de faire de la course à pied dans l'optique d'améliorer son taekwondo. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt multiplier les rounds, entre guillemets, en vraie situation sportive? En fait, dans quelle mesure la course à pied va se transférer à la pratique sportive? Est-ce que finalement ça vaut le coup de faire son cardio training en course à pied et pas plutôt en taekwondo?
Alors, c'est une excellente question. La première des réponses, les adaptations cardiovasculaires, elles sont spécifiques. Ça veut dire que si tu fais du taekwondo, pour améliorer en fait tes capacités en combat au niveau du taekwondo, il faut effectivement faire plus de taekwondo, plus de rounds de taekwondo, plus de travail au sac, etc. de façon spécifique, avec une intensité toujours plus importante. Le seul problème qui va se poser, c'est que le taekwondo, c'est une activité, donc encore une fois, où on sollicite les hanches, les jambes à très grande vitesse. Et plus tu augmentes en fait l'intensité, plus tu prends le risque d'augmenter les blessures. Donc moi, ce que je ferais, c'est que d'une part, j'augmenterais un petit peu le pourcentage de mon entraînement spécifique cardio en taekwondo, et que je réserverais par exemple un entraînement en intensité, c'est-à-dire un travail de fractionné en course à pied, d'une part pour te permettre d'élever ton niveau cardiovasculaire, mais également pour éviter justement de trop solliciter tes articulations de façon trop extrême, comme c'est le cas en taekwondo. Et je crois qu'il y avait un dernier aspect de ta question pour l'avoir retenu. Tu disais de ne pas, si c'était pas préférable d'utiliser la course à pied comme moyen de récup. Donc effectivement, ça peut être une stratégie. Et encore une fois, puisqu'on a parlé de rope training, le rope training sera très intéressant parce qu'il va te permettre de pouvoir faire une forme d'endurance, c'est-à-dire faire circuler le sang en faisant travailler un petit peu le haut du corps qui travaille beaucoup moins en taekwondo, tout en laissant reposer le bas du corps, donc moins d'impact au sol, moins de mobilisation articulaire extrême. Donc encore une fois, une pratique qui peut être intéressante pour toi, le rope training. Voilà.
Bon, bah, très bien. Bah, écoute, on va en rester là. Je m'excuse pour les quelques questions que j'ai zappées, mais il faut tenir le délai.
Moi, ce que je propose, c'est que éventuellement, si tu as le temps, Fab, c'est de les mettre de côté, puis on répondra à un prochain podcast. Parce qu'il y avait des questions sur le PSOAS qui étaient intéressantes aussi.
Ah bah oui, c'était toujours Béranco. Mais en même temps, je me suis dit que cette question-là, elle allait être adressée dans ton DVD Total Kit Training. Et des fois, ça m'embête un peu de répondre à des questions que tu adresses dans tes produits aussi. Mais d'accord. Ok, je la garde de côté.
Ouais, on la gardera de côté. Ou j'en ferai une vidéo Béranco sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est un sujet qui est intéressant sur... Muscles qui d'un côté peuvent être contractés et en même temps pas assez forts, voilà. Donc ça peut être un élément de réponse intéressant. Voilà les gars.
Bon, bah, super.
Merci pour tes réponses Christophe, comme d'habitude.
Bah écoute, merci une fois de plus, comme je le répète tout le temps à Superphysique, de me permettre de m'exprimer sur votre super site. Voilà.
À bientôt Christophe.
À très bientôt les copains.
Salut.
Bye.